Cobuzz.com. Rencontre par Yves Riesel.
Sous le climat qui fait chanter tout le midi, sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles, dans tous les coins on se croirait au paradis, près d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle. Et pour qu'elle ait dans sa beauté plus de douceur, mille jardins lui font comme un collier de fleurs. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, aux rivages sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté, Méditerranée.
Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce podcast, qu'il soit jour ou qu'il soit nuit, puisque vous pouvez l'écouter quand vous le voulez et le télécharger sur Cobuzz ou sur les différents agrégateurs de flux de podcasts qui sont mis à votre disposition. Désormais, bonsoir Alain Brunet, vous êtes le directeur, le fondateur, on va dire ça, le fondateur du festival d'Ambronné. Alors, quand on parle d'Ambronné, on a toujours un peu envie de parler finalement au pluriel. Déjà, vous nous incitez à cela, parce que dans le programme de la 31e édition, vous avez clos donc le 30e anniversaire l'année dernière, et puis alors maintenant vous repartez. 31, c'est un chiffre dur. On a l'impression qu'on se remet au bas de la montagne pour recommencer une ascension. Bref, dans le titre de cette 31e édition, il y a Méditerranée. Comme vous ne faites pas les choses simplement, Méditerranée, parenthèse, S.
Ah oui. Eh ben oui, parce qu'il y a beaucoup. Il n'y a eu qu'une mer, mais il y a une diversité de civilisations, de peuples, de musique tout autour de la Méditerranée. Et l'intérêt, justement, avec le centre culturel de rencontres d'Ambronné, qui est là donc toute l'année, qui travaille toute l'année et qui alimente le festival, eh bien, nous avons voulu donner un peu toutes les ambiances, un certain nombre d'ambiances de la Méditerranée, que ce soit l'ambiance de la Sicile, de la Sardaigne, et puis de l'ambiance, évidemment, pour le baroque, on est bien servi avec l'Italie, l'Espagne, la France, mais aussi avec les concerts sous chapiteaux, parce que vous savez que maintenant nous avons une seconde scène qui est plutôt dévolue aux musiques anciennes traditionnelles, aux musiques du monde. À ce moment-là, on peut aborder toutes les musiques traditionnelles grand bassin méditerranéen, et ça, c'est ce qui est formidable.
Mais alors, adopter un tel thème, est-ce que c'est pas un peu visé large? Est-ce que ça risque pas de se dire, oh là là, oui, enfin, on peut...
C'est vrai que c'est très large. C'est vrai qu'on pourrait largement consacrer beaucoup de festivals. Mais globalement, Ambronné a toujours été tourné vers le sud. Quand on regarde dans l'histoire, les 20 dernières années, et des 10 dernières années où on était plus thématique, les premières années, nous n'avions pas de thèmes prédéfinis. Depuis 10-15 ans, on a des thématiques et on s'aperçoit que sur les 15 dernières années, on a au moins 4 ou 5 thèmes qui sont autour de la Méditerranée ou en tout cas tournés vers le sud. On s'est tourné plus souvent vers le sud que vers le nord de l'Europe, même si on l'a fait aussi. Voilà. Et puis, on aime aussi les artistes qui apportent une autre vision du baroque, une vision plus décalée, plus jeune, plus dynamique. On a beaucoup soutenu Gabriel Garrido en son temps, on soutient maintenant un de ses disciples, Leonardo Garcia Larcón, qui apporte une énergie, une vitalité à ses musiques extraordinaires.
Alors, Ambronné est un centre culturel de rencontre. D'abord, Ambronné, ça se trouve où?
Ah, écoutez, ça se trouve dans le département de l'Ain, près de Bourg-en-Bresse. En fait, c'est très facile pour quand on est à Lyon ou à Genève, c'est-à-dire qu'on est sur l'autoroute A42, à 50 km de Lyon et à 100 km de Genève, donc sur l'axe Lyon-Genève, en fait, mais on est au cœur du département de l'Ain. Le premier département, par ordre alphabétique, mais aussi le premier, parce qu'on y vit très bien.
Voilà, le 01. Et pourquoi vous avez-vous créé ce festival, cette académie, ici, là?
C'est une erreur, certainement. Certainement. Non, vous savez, j'étais prof, moi, dans un collège, et puis il m'est arrivé de présider une association qui avait envie de faire quelque chose dans ce site où il n'y avait pas grand-chose. Et donc, avec l'aide du conseiller général de l'Ain, dans les années 80, on a décidé d'organiser quelques concerts en automne, un peu pour s'amuser, puis pour animer le site. On a démarrer avec 3 concerts, des budgets des ridicules. Et puis peu à peu, l'acoustique aidant, parce que l'abbaye d'Ambronay a une très très bonne acoustique.
Voilà, quel est l'équipement, je dirais, vieille pierre d'Ambronay, et également quel est le...
Vous savez, on était une bande d'amis qui suivions avec grand intérêt dans les années 75-80 le démarrage de ces gens un peu fous, ces baroqueux, comme on les appelait, qui rejouaient sur instrumentation d'époque, s'ils ne jouaient pas toujours juste, les instruments n'étaient pas toujours extraordinaires, mais on se disait c'est quand même intéressant. Et un jour, bon, j'ai suivi le travail d'Arnoncourt, bien sûr, Léonard, et puis Jean-Claude Malgois. C'est avec lui que nous avons démarré. Ensuite, William Christie avec César Florissant. C'est un de leurs premiers concerts, il y a à peu près 30 ans. Et on a trouvé qu'il y avait une adéquation formidable entre l'acoustique du lieu, qui est très claire, qui est très belle, et puis ces instruments anciens, parce qu'on avait fait des expériences d'orchestre symphonique, mais c'était complètement assez insatisfaisant. Ça saturait, l'orchestre symphonique est trop fort pour le volume de l'abbaye. Par contre, en instrumentation d'époque, avec des effectifs un peu plus restreints, d'autres instruments, on a une adéquation formidable. Donc du coup, ça a été un peu l'orientation baroque et l'orientation musique ancienne, c'était la conjonction d'un désir de connaître ces musiques, de les faire redécouvrir, et puis une acoustique adéquate pour cette musique-là. Et donc on s'est engagé dans cette voie très très vite.
À quel moment avez-vous, et comment ça s'est passé, à quel moment avez-vous songé à ce dispositif de centre culturel de rencontre, et comment donc Ambronay est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire quand même un carrefour avec beaucoup, beaucoup de choses dedans, on va y revenir ensuite.
Eh bien, écoutez, on travaillait avec la direction régionale des affaires culturelles. Nous avions développé autour du festival beaucoup d'activités, notamment des activités avec les scolaires. On avait démarré en 93 l'Académie baroque européenne, qui est un grand projet de formation et d'insertion professionnelle, les concerts jeunes solistes. Et le directeur régional de l'époque me disait, oui, c'est vrai, vous êtes pratiquement déjà une petite institution, mais on ne sait pas vous faire entrer dans aucune case. Vous n'êtes pas scène nationale, vous n'êtes pas dans la danse, vous n'êtes pas un théâtre. La seule façon qu'on pourrait trouver pour que vous deveniez une institution reconnue, c'est de devenir centre culturel de rencontre, parce que vous êtes dans un monument historique, vous animez un monument historique, vous le redonnez une mission. Ambronay est une abbaye bénédictine. Aujourd'hui, il n'y a plus de moines. Les moines ont été chassés en 1791 à la Révolution. Et donc, il fallait qu'on... La seule façon de pouvoir devenir institution, parce que la France est ainsi faite qu'il faut vous mettre dans une case. Et si vous n'êtes pas dans une case, vous n'êtes pas repéré, vous n'existez pas. Eh bien, la bonne case, c'était de devenir centre culturel de rencontre, rejoindre Royaumont, Fontevraud, Arc-et-Senans, la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, etc. Aujourd'hui, il y a 14 centres culturels de rencontre, et nous avons rejoint cette association et on a obtenu le label sous la présidence de Jean-Jacques Ayagon, qui a aidé d'ailleurs un ami fidèle d'Ambronay qui était venu au festival lorsqu'il était ministre et qui nous a beaucoup soutenus. Et c'est, je pense, grâce à son action aussi qu'on a pu obtenir le label le 8 décembre 2003.
Quelle est, selon vous, la pertinence justement de ce dispositif des centres culturels de rencontre, et en quoi est-il, je dirais, adapté à ce dont le paysage culturel local peut avoir besoin aujourd'hui ?
Écoutez, je pense que les centres culturels de rencontre, ils ont beaucoup évolué dans le temps. Ils ont été pendant très longtemps sous la présidence de Jacques Rigaud, qui a été l'un des fondateurs et l'un des inventeurs des centres culturels de rencontre. Ça a été des lieux de culture, des lieux un peu savants, des lieux où on réfléchissait, où on prenait du recul, on essayait d'avoir une pensée différente de ce qui pouvait être, ce qui pouvait se passer dans des théâtres ou des scènes nationales. C'était pas la production qui était la principale priorité. préoccupation, ce n'était pas non plus l'action sur les territoires. Et peu à peu, on s'est bien rendu compte qu'il fallait que les centres culturels de rencontre soient aussi des lieux qui créent, des lieux qui montrent des choses, des lieux évidemment qui expérimentent et qui soient ancrés dans les territoires. Parce que tous ces lieux, comme par exemple celui d'Ambronay, propriété du conseiller général de l'Ain, si on ne fait que de la recherche pour des universitaires, le président du conseil général de l'Ain n'est pas forcément très satisfait puisqu'il n'y a pas cette action indispensable aujourd'hui en direction de ses publics, des publics du département, de même pour la région Rhône-Alpes. Voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'à la fois, il y a ce côté de réflexion, de prise prise de risque parfois, de rencontre, hein, si ça s'appelle centre culturel de rencontre, c'est qu'on a la chance de pouvoir faire rencontrer des artistes, des membres du comité scientifique, des philosophes, des historiens, etc. Et puis la rencontre entre les artistes eux-mêmes qui ne se connaissent pas. Et de ces rencontres-là naissent des projets formidables qu'on ne pourrait peut-être pas et certainement pas monter dans une scène nationale. Une scène nationale, vous êtes dans du théâtre, vous faites venir des gens de théâtre, vous produisez
de l'accueil.
Ambronay, on a la possibilité d'ouvrir comme ça des portes et de voir, d'expérimenter des
actes. À quoi cela tient, ça tient au fait que vous pouvez héberger les gens pour rester là. Ça tient à cette capacité de mettre les gens au vert, en fin de
tout
compte.
Tout à fait. Je crois que,
mettre les gens au vert dans des vieilles pierres.
Voilà. Alors, en plus, on va être bien classé pour les mettre au vert, parce que là, il y a 12 millions de travaux en cours, et on va récupérer une vingtaine de chambres, beaucoup de salles de travail. Les prochains résidents qui vont arriver à Ambronay seront dans des conditions tout à fait excellentes. Aujourd'hui, elles sont moins bonnes, mais ils sont déjà sur place. Je crois que c'est temps nécessaire pour la maturation de certains projets qui fait que le centre culturel de rencontre peut permettre à des productions d'émerger de façon différente de ce qui peut se passer ailleurs. Et puis surtout, après, tout ce temps des artistes sur place, ça nous permet de travailler sur le territoire. Ils ne restent pas tout le temps dans leur tour d'ivoire de l'abbaye, mais ensuite, ils partent sur le territoire. Il y a des enfants qui viennent de toutes les écoles, de la maternelle jusqu'au lycée. Il y a tout ce travail d'initiation, d'initiation et de travail avec des artistes. C'est la différence des médiateurs, c'est que là, les enfants sont directement en contact avec les artistes et on a des projets formidables qui se montent au niveau pédagogique, avec les écoles. Et je crois que c'est tout ce travail. C'est à la fois le travail très haut niveau, mais c'est aussi un travail d'application sur le territoire. C'est de l'originalité, c'est faire rencontrer des gens qui ne se connaissent pas, c'est mélanger, là, par exemple, en ce moment, on a un programme... Un résident italien qui nous fait des céramiques, qui travaille avec les écoles d'Ambronay, et on va pouvoir exposer ça à proximité de l'abbaye. Ça va être un travail de création contemporaine, mais sur la thématique de la musique. Donc on croise les arts entre eux, les artistes entre eux, et le céramiste va pouvoir rencontrer un musicien qui va pouvoir rencontrer un photographe, etc. Je crois que c'est un creuset formidable pour la création, pour essayer d'innover, pour essayer de monter des spectacles qui vont toucher du public et puis pour faire réfléchir aussi sur un certain nombre d'actions.
Et alors que disent les politiques locaux du festival et qu'est-ce qu'ils lui disent et qu'est-ce qu'ils ont, est-ce que par exemple ils vous font part de leurs souhaits, est-ce qu'ils éventuellement même ils vous font part de leur goût, finalement ça serait pas mal de faire, ouais, est-ce que comme ça vous avez une sorte de, c'est une espèce de sanctuaire, ou est-ce que vous pouvez aujourd'hui, d'abord, quelle est la part de votre financement régional?
Alors, les parts de financement, aujourd'hui, c'est le département de l'Ain qui est le premier partenaire principal, c'est
donc
le propriétaire.
Important.
Voilà, c'est une aide importante puisque l'État, le département, qui est la région qui donne moins, et l'État, si vous voulez, il y a d'abord un premier niveau, c'est le département, ensuite région et État sont à peu près sensiblement à peu près au tiers du niveau, et puis tout ça, ça représente en gros 50%, et puis 50-54%, et aujourd'hui tout le reste c'est des ressources propres, c'est-à-dire c'est le mécénat, c'est les ventes de production, c'est les ventes de disques, etc. Donc on a un bon équilibre entre les ressources propres et puis les financements, grâce aussi au mécénat, puisque aujourd'hui on a un club d'entreprises, d'une vingtaine d'entreprises qui nous soutiennent. Voilà, je crois que c'est un bon équilibre. Mais le politique est prudent, vous savez, dans l'Ain, les politiques sont prudents, et ce n'est pas eux qui vont se mêler véritablement de programmation. Mais par contre, chaque fois qu'on monte des productions où on associe des amateurs, on associe, comme cette année, on a des concerts amateurs, on associe des jeunes, on annonce des milliers de jeunes qui viennent en Brunet pour travailler. On a créé un opéra avec Cœur d'enfant l'année dernière. Chaque fois qu'il y a ce travail sur le territoire, on nous dit bravo. On nous dit pas faut le faire, mais on sait qu'il faut le faire. Parce que de toute façon, si ce travail n'est pas ancré sur le territoire, si tout ce travail qu'on fait en Brunet ne réagit pas sur la population locale, sur la formation des jeunes et sur tous les publics finalement, eh bien on sait qu'à terme, on aura des soucis. Parce que c'est logique, le politique veut investir sur son territoire, ça coûte parfois assez cher, notamment la restauration des bâtiments, et il faut que tout ce travail, ces investissements, eh bien, rejaillissent sur le territoire. Et je crois que de ce point de vue-là, depuis quelques années, on a fait des progrès considérables pour tous ces tranchages territoriaux.
Et est-ce qu'il vous semble que les politiques ont changé un petit peu de vision sur ce phénomène de festival avec les années ? Est-ce qu'ils prennent ça de manière différente ? On peut imaginer qu'à une certaine époque, avoir son festival, c'est oui, assurer sa saison d'été.
C'est sûr, oui. Et... je ne suis pas certain que ceux qui font que du festival, ils font que de l'accueil, les jours soient excellents pour eux dans les années qui viennent. Hein, je crois que ceux qui vont se contenter de faire des achats de concerts, même de concerts de grande qualité, dans une période difficile, il risque d'avoir quelques soucis parce que, évidemment, on est juste dans le domaine du divertissement, de faire venir un public qui va être content d'écouter de grands artistes. Mais aujourd'hui, l'argent est plus rare et je pense que ce qu'ils souhaitent, c'est effectivement qu'on aborde des questions de formation, d'insertion professionnelle, d'initiation artistique, d'ouverture à la jeunesse, de soutien, par exemple, à des associations de handicapés ou des associations, comme on l'a fait parfois, de gens qui sont en grande difficultés, donc de les accueillir, de les soutenir. Je crois que ce travail social sur le territoire sera d'autant plus mieux perçu qu'il y a quand même de gros soucis dans la société et que si nous, à notre niveau, on peut répondre, bien sûr, tout à fait imparfaitement, à ces problématiques de société moderne, de société difficile pour certains, eh bien je crois que le politique sera d'autant plus satisfait. Mais comment dire ? C'est souvent du non-dit, si vous voulez. On sent bien quand les politiques sont plutôt satisfaits d'un projet ou quand les politiques... par exemple, au départ, nous n'avions que des concerts à l'abbaye. Et la réponse que j'avais souvent du politique, c'était de me dire « Ah oui, c'est formidable, ces concerts. » Mais, il y avait toujours le « mais ». Et c'était quoi, le « mais »
oui.
C'était « Oui, mais quand même, la musique baroque, c'est élitiste. » Mais, y a quand même, c'est quand même cher, les concerts. Donc, vous n'allez pas toucher tout le monde. Y avait toujours ce mec qui faisait que, quelque part, c'était bien. On était dans la qualité, on était dans le prestige. Eux étaient contents parce qu'ils faisaient des opérations de relations publiques magnifiques. Mais il y avait toujours ce mec. Et je me suis dit, il faut faire sauter ce mec. Et le faire sauter, c'est quoi ? Ça veut dire, à côté des parties élitistes, à partir des grands concerts, eh bien, il faut faire tout ce travail de terrain. Tout ce travail de formation, d'initiation, de travail avec les publics. Et à ce moment-là, le mais tombe. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir le soutien de la majorité des conseillers généraux du département. C'est à partir du moment où on a tout fait ce travail sur le territoire. Après, quand je l'ai rencontré, on ne parlait plus que du festival. On dit oui, mais je disais oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a les actions scolaires, il y a le père avec des cœurs d'enfants. Et moi, c'est moi qui mettais le mais derrière. Et c'était le mec qui... Ah ben oui, d'accord. Et après, moi, j'ai eu plus de problèmes. Les élus ont compris notre projet, ils l'ont compris dans sa diversité, et je crois qu'aujourd'hui, ils soutiennent le projet de façon de très très belle façon.
Alors justement, il y a ça, 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 il y a ça. Il y a donc tout ce qu'il y a autour de ce nom, Embrunné. D'ailleurs, ouais. quand on regarde votre nouveau logo, il y a marqué Embrunné, avec ouais. une seule N. Et puis autour, alors on va faire le tour,
ouais, on va
rapidement.
Faire le tour.
On va ouais. faire rapidement. Européenne Baroque Academy, qu'est-ce que c'est?
Alors, l'Académie Baroque Européenne, on sélectionne chaque année, on monte un orchestre, un chœur, des solistes, on choisit une œuvre, et avec des jeunes qui sortent de tous les grands conservatoires supérieurs d'Europe, on monte une production sous la direction d'un grand chef avec une
et tournée. Et cette session dure combien de temps?
Ça dure un petit mois.
Un petit mois, et ça se passe quand dans l'année?
Alors, ça se passe soit l'été, on tourne pendant les festivals d'été, soit en septembre pour une tournée en octobre à l'entrée des saisons. Et on a chaque année entre...
Donc, un concert à Embrunné et puis une et tournée
puis, après
autour.
Une tournée de 10-12 concerts.
Les éditions
Mais il y a beaucoup de formations, attention, j'insiste.
Les éditions d'Embrunné,
les éditions d'Embrunné, c'est les disques, la label édition oui. Embrunné, et les livres, puisqu'on a de la recherche et on édite un certain nombre d'ouvrages. Mais les disques, aujourd'hui, ben le label Embrunné, on édite 5 au moins chaque année. On en a 25, on a 5, voilà, 25 références en
albums,
5 ans.
Tous voilà. ces albums, naturellement.
Et ça, ce sont évidemment les artistes qui sont en résidence, ce sont les productions d'Embrunné, évidemment, qu'on enregistre en priorité.
C'est un peu toutes les miettes artistiques du travail généré par toute la structure.
Ben, ça a été la première décision qu'on a prise quand on a eu le label de Centre culturel de rencontre, c'est-à-dire on va créer des éditions parce qu'il faut que ce travail qui est réalisé en Embrunné, on le porte à la connaissance des gens. Et pour le porter à la connaissance, on édite des ouvrages, on édite des disques, on devrait bientôt éditer des vidéos. Il faut essayer et on essaye de faire enregistrer le maximum de concerts pour que le maximum de gens puissent rencontrer, voir ce travail qui est fait sur place. Quoi.
Alors, l'édition de recherche, ça m'intéresse ça. Alors, qu'est-ce que vous cherchez à Embrunné? Alors, et d'abord, qu'est-ce que vous avez trouvé?
On n'a pas trouvé
Parce
encore...
Parce que vous rappelez ce qu'il a dit, le président Sarkozy.
Vous cherchez, mais vous trouvez.
Les chercheurs doivent trouver.
Oui, oui, mais c'était déjà De Gaulle qui disait, vous savez, les chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Bon, non, en tout cas, on a une thématique. Puisqu'il fallait une thématique pour avoir le label, c'était une obligation, il fallait une thématique. Or, on est le seul centre culturel où on a une église, mais qui est encore une église affectée au culte. C'est une église paroissiale, avec un curé, avec des messes le dimanche. Et donc, avec le ministère de la Culture et avec tous les partenaires, on a décidé de prendre la thématique musique et sacrée. Bon, c'est pas musique sacrée, parce que ça aurait été beaucoup trop restrictif, mais c'est musique et sacré. C'est la particularité du sacré à travers la musique. Et donc, à travers ça, eh bien, nous avons commencé avec un colloque pour aborder ces thématiques, pour faire le fondement un petit peu intellectuel du centre culturel. Et nous avons édité, le premier ouvrage a été édité, c'est les actes du colloque, par exemple. Ensuite, nous avons travaillé sur des œuvres, des ouvrages qui ont été notamment montés par les académies, Ercole et Amante, d'autres productions en version scénique. Nous avons produit des ouvrages sur cette œuvre et nous les avons édités, etc. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est aussi le reflet des axes qu'imprime le comité scientifique. On a 8 membres au comité scientifique de toutes origines et tous ces scientifiques, eh bien, nous apportent un peu leurs réflexions. Et donc, à partir de là, on tisse des liens, on tisse des thèmes, et puis on essaye d'éditer, par exemple, des actes, des colloques ou des rencontres qu'on peut avoir en Embrunné. Voilà pour ce qui concerne la recherche et la partie intellectuelle du projet.
Et en matière de partition, est-ce que vous allez publier des partitions?
Non, on n'a pas encore décidé de publier des partitions, ça viendra peut-être. Ce n'est pas notre priorité aujourd'hui, pour l'instant, en tout cas.
D'accord. Alors, le festival, on en a parlé, bien entendu,
c'est l'origine, c'est la base.
Est-ce que quelquefois, ça ne vous ennuie pas un petit peu cette prédominance du festival sur tout le reste?
Pas du tout, quand on a créé le festival il y a 30 ans. Non, au contraire, c'est que le ministère disait toujours, oui, mais Embrunné, Alain Brunet, ça sera toujours que le festival. Il ne va pas diriger un centre culturel, ce sera le festival qui va compter. Et pour moi, ça a été aussi une petite révolution de faire en sorte que, autour du festival et avec le festival, on puisse développer toutes ces activités qu'on est en train de détailler. Là.
D'accord. Alors, si on en vient maintenant au festival de cette année, oui. Méditerranée au pluriel, il s'ouvrira avec les Vêpres à la Vierge de Monteverdi, dirigé par Marco Mencobeni, qu'on oui. entend finalement peu souvent en
oui.
France.
Oui, c'est un Italien que j'ai invité plusieurs fois parce qu'il a une spécialité. Son ensemble s'appelle Cantar Lontano, chanté à distance. Et c'est le seul ensemble un peu qui se spécialisait à partir de musique, notamment des musiques italiennes, romaines, où à cette époque on installait les chœurs éclatés, on en mettait sur toutes les tribunes, on mettait des artistes un peu de partout dans l'édifice. Ils sont espacés parfois de plusieurs dizaines de mètres, et c'est très compliqué de mettre tout ça en place. Et lui s'est spécialisé dans ces répertoires avec grand bonheur, et en Brunet, même si on n'a pas de tribune, eh bien, le fait de pouvoir disposer ces artistes dans tout l'espace, c'est toujours vraiment très, très intéressant. Et chaque fois qu'il est venu en Brunet pour des verres, pour des choses comme ça, ça a toujours été des moments très très forts. Parce que le public ne ressent pas la même émotion quand les gens sont répartis dans tout l'espace. Alors que vous avez un concert de face, le son vient en face, eh bien, vous êtes habitué. Je peux vous dire que quand on a fait des vêpres romaines avec des podiums assez hauts où les gens chantent du sommet et le son vous arrive par-dessus la tête, ça tombe d'en haut, comme c'était l'idée du chant des anges. Hein. C'était l'idée quand on faisait ça à Rome, à Saint-Louis des Français, il y a une tribune tout autour, on cachait les artistes et on n'entendait pas d'où le son venait du haut, et c'était la voix des anges.
D'une certaine manière, une question comme ça, beaucoup de musique baroque aujourd'hui, beaucoup d'œuvres religieuses baroques, naturellement, ouais. Un peu partout, et chez vous aussi. Ouais. Est-ce que le fait, d'une certaine manière, que toutes ces initiatives artistiques soient en quelque sorte laïques, c'est-à-dire organisées par des structures qui s'intéressent à la musique, à l'art, ouais. Mais qui, quelque part, viennent parler de choses du ciel, et qui ont été faites justement pour créer comme ça un peu du surnaturel et de l'effet sur les fidèles la population. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça une sorte de divorce finalement? Est-ce qu'il ne faudrait pas en plus que le Festival d'Ambronay soit carrément sous le contrôle de l'archevêché, que sais-je, pour que, en quelque sorte, il puisse vraiment y avoir dans une recherche...
Je ne suis pas certain que le ministère de la Culture soit d'accord.
Dans une volonté d'aller plus avant, si vous voulez, dans une compréhension profonde, vous voyez ce que je veux dire?
Ça a été la grande difficulté lorsqu'on a discuté de la labellisation avec les gens du ministère, avec les inspecteurs du ministère. Vous savez, quand on a parlé, on a commencé à dire il faut que le projet tienne compte du lieu. Qu'est-ce que c'est le lieu? Il y a une abbatiale avec un curé, avec une... Bon, très bien. Donc, il faut que quelque part, la musique sacrée soit présente. Puisque vous êtes le seul centre culturel de rencontre avec une église consacrée, il faut que vous abordiez la musique sacrée. Bon, très bien. Mais quand on a dit, bon, alors allons-y, faisons d'Ambronay un centre de la musique sacrée, il y a eu tout de suite un refus des inspecteurs de l'éducation nationale, du ministère de la Culture, qui ont dit, non, non, on veut bien que vous travailliez sur le sacré, mais il faut que ça soit un sacré, non pas un sacré religieux, un sacré lié à l'Église catholique, apostolique et romaine, mais un sacré plus universel. Alors on s'est dit, comment faire pour... effectivement, le sacré sera au cœur de la réflexion. Il y aura bien sûr le sacré de la toutes les messes, tout le répertoire baroque extraordinaire qui a été fait pour les églises à Rome et en Italie et ailleurs, mais il faut que ça soit plus universel. Et donc l'idée de notre président de l'époque, Michel Cuzin, ça a été de dire, mettons musique et sacré. Et le « change tout ». Parce qu'à ce moment-là, la musique peut ne pas être sacrée, mais elle le devient, si vous voulez. Hein. On voit bien comment, par exemple, les hommes politiques sacralisent certains moments avec de la musique. Par exemple, je pense, lorsqu'ils font leur meeting politique.
Vous avez entendu le nouvel hymne du PS, tout de même, qui vient de sortir.
Je n'ai pas encore entendu, mais...
Francis le rajoutera peut-être dans le podcast à la fin.
À la fin, bon, alors c'est très bien. Mais je crois que la musique, là, sacralise.
Ah, ça, je pense que ça va sacraliser carrément. Là.
Ah, oui, mais je pense que c'est pas... Ils n'ont pas choisi de la musique sacrée.
Non, un Belge, il paraît que c'était un Belge qui a composé.
Ah bon.
Debout, les hommes de la terre, debout, les hommes de la terre. La raison de notre terre, c'est les rictions de la fin.
Il est là, laissons la raison nous conduire, la justice en ligne de mire, héritier d'une histoire progressiste et sociale.
Ah, alors écoute, on va revenir à des choses très sérieuses. Si je devais vous demander, bon, ce festival donc d'Ambronay qui commence le 10 septembre,
oui.
S'ouvre avec Les Vêpres à la Vierge, une œuvre très spectaculaire.
Formidable.
De quoi êtes-vous le plus fier ou où est-ce que vous allez apporter vraiment la surprise dans ce festival?
Je crois qu'il va y avoir deux ou trois grandes surprises. Ils sont des créations qui sont des œuvres qui sont complètement inédites et qu'on va recréer. Ça aussi, c'est une des missions du centre, c'est de ne pas faire que des œuvres très connues qu'on joue de partout, même si on les joue très bien. On fait aussi, on demande à des artistes de ressortir des œuvres, de travailler sur des œuvres. Alors, notre artiste en résidence, Leonardo Garcia Alarcón, qui est donc un disciple de Gabriel Garrido, avec qui on a beaucoup travaillé, notamment sur la musique d'Amérique latine, nous propose deux projets. Le premier week-end, il propose un auteur complètement inconnu, pratiquement, qui était maître de chapelle à Messine, Falvetti, le Déluge universel, qui est un grand oratorio pour chœur et orchestre. Et eh bien, on n'en sait rien, parce qu'il n'y a que lui qui a la partition. Il dit que c'est de la musique très, très intéressante.
Vous n'avez pas, quand on vous propose un tel projet, vous achetez du poisson à la mer, vous n'avez pas plongé un peu dans les partitions? Vous n'avez pas... qu'est-ce que vous avez fait quand il vous a présenté cette... Parce que en plus, c'est une info importante, donc un engagement financier important.
Absolument.
Donc, comment avez-vous fait pour... Vous lui faites confiance ou est-ce que vous avez... Vos inspecteurs à vous qui vont chercher un peu dans la partition.
Je fais beaucoup confiance aux artistes que j'ai choisis parce que je les connais et je sais qu'ils ont je pense que Leonardo Garcia Alarcón fait partie de la génération des trentenaires les plus doués, un des plus doués aujourd'hui j'ai pu rencontrer. Après, je fais confiance de temps en temps, effectivement, je délègue ou j'essaye d'en savoir plus. Isabelle Battioni, notre musicologue, qui était à mes côtés jusqu'à ces jours, mais qui va continuer un petit peu à travers le disque aujourd'hui, était notre musicienne musicologue qui permettait d'aller voir un peu dans les partitions. Je ne suis pas certain qu'elle l'ait fait parce que la partition était encore... Parce que le problème, c'est très compliqué quand on trouve une vieille partition du 17e siècle ou 18e. Il faut souvent faire beaucoup de travaux.
Beaucoup de réalisations.
Il y a des musicologues qui se mettent dessus, le chef travaille dessus. Et je crois que la partition est encore en élaboration, donc c'est pas évident d'avoir la partition.
Mais là, ça ne fait pas sens justement que vous publiez la partition ensuite.
Mais c'est une des questions qu'on se pose, c'est que lorsqu'on engage des travaux de rénovation de partition, bon après on se dit est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'édition. Bon, ça c'est des questions. On n'est pas encore.
J'imagine qu'un musicologue qui souhaiterait faire de toute façon, vous avez ça dans la bibliothèque et c'est possible de le.
Tout à fait.
Partie de
tout
vous.
À fait. Je pense qu'on pourrait y arriver peut-être un jour. Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'on fait beaucoup confiance aux artistes, mais on a vraiment confiance aux artistes quand on les connaît. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. Ça, c'est le premier projet. C'est
Quelle autre surprise ?
Le Déluge universel. Après, à partir de partitions de Vivaldi. Alors, Vivaldi, ce n'est pas une surprise, mais il y a deux partitions, notamment un Dixit Dominus, qui a été retrouvé il y a 2 ans à Dresde. Et donc, à partir de ces deux partitions qui sont plus ou moins inédites, au moins une est complètement inédite.
Voilà, qui va faire plaisir à Stravinsky, naturellement.
Voilà. Donc, on va pouvoir remonter ses vêpres. Et puis, je dirais qu'il y a aussi une autre œuvre qui m'intéresse beaucoup. C'est un opéra comique qu'on va donner dans le chapiteau, qui est réservé plus aux musiques du monde. Mais là, avec l'ensemble Les Paladins, on va monter la Zingara de Favart. C'est un opéra, en fait, de Di Capua, qui est un Italien, mais qui était repris par Favart en 1755, et c'est c'est très très de Molièresque, on peut dire, avec le vieux barbon qui veut épouser la jeune fille.
Oh, ça, c'est pas de la musique sacrée, ça.
C'est pas du tout sacré, c'est pour ça qu'on fait pas ça dans l'église. Et puis il y a le genou, évidemment, qui veut pas se la faire enlever, donc il se bat contre le vieux barbon. Donc on n'a pas à se faire exploser les neurones pour comprendre le livret, mais c'est une musique très claire, très vive, très très enlevée, et on va donner ça en version scénique dans notre chapiteau, là, donc, avec André Fournier, le metteur en scène. Et puis, quelque chose que, par exemple, si vous voulez savoir un peu ce qu'on peut faire dans un centre culturel de rencontre, on a un autre artiste en résidence qui termine une résidence, Pierre Kuenz, qui a été choqué quand il était tout jeune d'un fait divers qui s'était passé sur la plage de Naples, de deux jeunes roumaines qui s'étaient noyées sur la plage de Naples. Et donc, les gens les ont tirés sur la plage, ils ont mis un drap et ils ont continué de se baigner tranquillement. Et ça a fait beaucoup de bruit dans la presse parce que c'était quand même un scandale de ne pas s'occuper de ces gens-là, de rien faire. Et lui, à partir de ça, il écrit un texte qui s'appelle Les Baigneuses, et il monte un spectacle avec une création mondiale, avec une création de musique électroacoustique, et avec deux comédiens et un comédien, enfin trois personnes, et un compositeur qui est Jean-Louis Estagé, qui a fait la musique très très contemporaine, mais sur un fait divers, avec un texte qu'il est en train d'écrire. Ça sera carrément une création mondiale. C'est son lancement de compagnie. C'est quelqu'un qu'on a accompagné pendant 4 ans. Et il va monter ce spectacle pour essayer ensuite de voler de ses propres ailes et de pouvoir avancer dans la carrière de metteur en scène. Ce travail entre musique, et, qui n'est pas de musique baroque d'ailleurs, ce travail d'écriture, de réflexion, de fabrication d'un spectacle qui sera complètement une nouveauté. On ne sait pas encore ce que ça va donner, mais je pense que ça sera intéressant.
Le tombeau des baigneuses, septembre, 1er octobre.
Voilà, donc
Il y a des invités prestigieux.
Bien sûr.
Il y a les Affleurissants, Paul Odette, il y a Tom Copman, Skip Sampé,
Hopkinson Smith.
Voilà. Et il y a donc des cabarets méditerranéens en 2 épisodes, oui. N'est-ce pas ? Un premier cabaret consacré à Marseille, comme vous avez bien fait, avec Maurice Elmedioni en particulier.
Elmedioni, formidable pianiste, magnifique.
Voilà. Et puis un deuxième cabaret qui, lui, est consacré à un hommage au poète palestinien
Mahmoud Darwish, qui a disparu il y a quelques années, pas longtemps. Et là, on a invité deux ensembles, un chanteur et un joueur de oud, Monet Madouane, qui va donc jouer et chanter des poètes de Mahmoud Darwish. Et puis le trio Joubran, extraordinaire, ces trois frères Joubran avec le oud, qui sont absolument magnifiques. Je crois qu'ils ont triomphé un peu de partout où ils passent. Et je pense que ça va. Alors, c'est quoi ces cabarets ? C'est deux concerts sur la même thématique, avec au milieu une collation. Les gens vont pouvoir se rencontrer, peut-être rencontrer les artistes, avoir une petite pause où on va pouvoir grignoter, boire un coup. Et ensuite, on enraye sur le deuxième concert. Je crois que Mahmoud Darwish, effectivement, qui a disparu il y a seulement 2 années, il y a un certain nombre de festivals, j'ai vu avec plaisir qu'ils avaient mis l'accent sur ce grand poète. Et ça me paraît tout à fait justifié. Et donc, on va essayer de donner les textes, de les projeter. Enfin, il faut aussi que les gens, à l'occasion, quand on a un support qui sont des poèmes magnifiques, il faut que les gens comprennent ce qu'on va chanter. Et donc là, je crois qu'on va être en train de voir pour essayer que les gens comprennent bien tous les textes.
Alors, il serait trop long de passer tout en revue. Le festival se terminera le 3 octobre par un concert, quelle bonne idée d'ailleurs, un concert Spinozzi, Vivaldi, un concert, un spectacle en famille, ce qui est tout à fait, indiqué en ce qui concerne Spinozzi, naturellement.
On a un certain nombre de concerts
de la famille.
Voilà. Pas trop difficile, avec des explications aussi, avec un petit peu de pédagogie au cours de ces concerts.
Quelques éléments de documentation, juste. Quel est, par exemple, question peut-être déplaisante, mais quel est le taux d'autofinancement d'une telle organisation ?
Globalement, sur le Centre culturel de rencontre, on est à 45-46% d'autofinancement entre le mécénat et les ressources propres.
Et le public, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font le voyage d'Embrunet ? Il y a des structures d'accueil pour dormir à l'hôtel.
Embrunet, il n'y a pas d'hôtel, mais tous les hôtels, tous les gîtes d'étape et les hôtels aux alentours
sont mobilisés,
bien entendu. L'année dernière, on a eu 18 000 entrées sur le festival, mais c'était un peu une année exceptionnelle puisque c'était le 30e anniversaire. Bon, j'espère que cette année, on fera pas aussi bien. Je ne sais pas, ce n'est pas encore sûr. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est une opération qui mobilise un peu toutes les énergies de la
région. Beaucoup de bénévoles.
Beaucoup de bénévoles, une centaine. Ouais. Et puis une équipe de salariés aujourd'hui d'une vingtaine de personnes pour gérer tout ça. Et puis bientôt un peu plus parce qu'avec l'arrivée des nouveaux bâtiments, parce qu'on aura...
Donc,
4000 mètres carrés à rénover.
4000 nouveaux mètres carrés pour s'ébattre.
Ouais.
Des bâtiments,
magnifiques.
Complètement rénovés.
Vous faire visiter.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite maintenant ? Quels sont vos rêves ?
Eh bien, que ces nouveaux bâtiments fonctionnent, c'est-à-dire que le risque qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on sait que les conseils généraux sont privés d'un certain nombre de recettes, etc., et que tout le monde serre un peu les lavis. Et c'est vrai qu'au moment où on va récupérer ces bâtiments magnifiques, puisque c'est 12 millions d'euros qui sont investis par l'État, la région Rhône-Alpes et le conseil général de l'Ain qui est propriétaire, on nous annonce des temps un peu difficiles au niveau financier. Et donc, on se dit qu'il va falloir qu'on soit très, très inventif, très dynamique pour trouver les financements nécessaires. Parce que moi, je ne voudrais pas attendre plusieurs années avant d'avoir les budgets nécessaires pour faire fonctionner ce centre. Voilà, donc je souhaite que, en tout cas, on va créer un centre de séminaire pour entreprises. Je crois qu'on va essayer de trouver le bon équilibre entre les activités du centre de séminaire qui permettront de générer des ressources. et puis les activités artistiques, culturelles, la formation, qui, elles, prennent plutôt des budgets qu'un rapport.
Donc, bref, l'avenir est au chef d'entreprise Alain Brunet.
Oui, ben oui, pour, toujours, toujours. C'est-à-dire qu'il faut conjuguer l'entreprise, la création, l'artistique. Je crois que on est au carrefour de tout ça et c'est formidable parce que effectivement, en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est me battre chaque fois pour dégager les moyens nécessaires pour réaliser les projets qu'on a imaginés. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'au début, vous avez des projets, personne ne vous donne des sous pour le réaliser. Bon, moi, je les ai quand même réalisés parce que je me disais, il faut le faire, on va le faire. Parce que ce qui fait en France, et comme partout, on vous donne les sous quand vous avez fait les preuves. Mais on ne vous donne jamais les sous pour faire les preuves. Donc, il faut faire ces preuves sans sous. Et après, vous financez. Parce qu'après, on dit, ah, vous avez réalisé ça, c'est très bien, on va vous donner de l'argent maintenant. Bon, voilà, le tout, c'est de l'amorce,
l'amorce
de
la pompe. Un dernier mot, le thème du 32e Festival d'Ambronay.
Eh bien, ça sera le thème du... C'est un scoop, ça.
Ah oui,
ce sera le thème du centre culturel, ça sera musique et sacré, en fait. On va illustrer...
Ah, mais de plus en plus large.
Alors, c'est de plus en plus large. Et puis, notre curé sera content, puisque là, on va avoir plein de musique sacrée.
Il faut toujours faire plaisir à son curé.
Il faut toujours faire plaisir aux gens avec qui on travaille.
Merci Alain Brunet et
merci
à bientôt.
Beaucoup.
Cobuzz.com Rencontre par Yves Riazel.